إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 3 du mois Rabi al-Awwal de l'année 1448 de l'Hégire, correspondant au 16 août 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'entamer une nouvelle série de cours autour d'un sujet capital pour toute personne souhaitant se lancer dans cette voie extrêmement méritoire pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la sincérité, la voie de la demande de science. Et ce sujet de cette série, c'est l'adab dans la science, les règles de bienséance dans la science, d'une manière générale. Que ce soit les règles qui concernent l'étudiant ou les règles qui concernent les enseignants et les règles que nous devons avoir d'une manière générale, autant que muslimin, autant que muslim qui a emprunté la voie de la science, c'est-à-dire dans nos comportements avec le reste de la communauté. Dans d'autres sujets sur lesquels nous allons revenir, bi'idnillah, dans cette introduction. Donc le sujet, c'est l'adab. L'adab qui a une place capitale dans notre religion. On dit l'adab et on dit l'akhlaq, et on parle aussi de tazkiyatun nufus, la purification de l'âme. L'adab, parmi les textes qui indiquent son mérite, hadith al-Nabi alayhi salatu wassalam, dans lequel il a dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » wa fi riwayatin qal إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, j'étais envoyé pour compléter les bons comportements et les bonnes moralités et l'éthique. Lakin, dans le style arabe, le Nabi alayhi salam a utilisé innama comme s'il limitait, alayhi salatu wassalam, la sagesse pour laquelle il a été envoyé au fait de compléter les bons comportements pour ses suiveurs. C'est-à-dire que l'arabe, on comprend de ce hadith que les arabes avaient déjà des bons comportements. Et ce sens est juste à condition de comprendre l'akhlaq dans leur sens large qui englobe l'akhlaq avec le créateur, l'akhlaq avec le messager et la législation, et l'akhlaq avec la créature. Et l'importance de connaître l'adab également, car c'est un moyen de la purification de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala dit « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا » Certes, il a réussi celui qui l'a purifié. Certes, il a réussi celui qui a purifié son âme. Et l'ignorance de l'adab, notamment dans la demande de science, fait que l'étudiant peut être dispersé dans sa demande de science et peut-être une cause de tomber dans des erreurs et d'être dans un désordre dans sa demande de science, en plus de toutes les maladies par lesquelles il peut être touché s'il n'a pas donné l'importance à l'adab avant cette demande de science, comme la maladie de l'arrogance, la maladie de l'émerveillement par soi-même, le fait de ne pas connaître son vrai statut et de s'arrêter là où il doit s'arrêter. Et de dire « je ne sais pas quand il ne sait pas ». C'est pour ça l'imam Ibn al-Qayyim a exprimé ces choses dans une de ses paroles dans son livre « Madarij Salikin », il a dit « Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih ». La politesse de l'individu unwanu sa'adatihi wa falahih, c'est le slogan de sa réussite et de son succès. Wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi wa bawarihi, et son impolitesse est le titre ou là le slogan de sa perte et de son gâchis et de son échec. فَمَسْتُجْلِبَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِمِثْلِ الْأَدَبِ. Et jamais on n'a obtenu le bien de ce bas monde et de l'au-delà avec quelque chose qui est semblable à l'adab. Subhanallah. L'adab, c'est la clé de la réussite et du bonheur. Et sa perte, c'est parmi les plus grandes causes de l'échec et de la perdition de l'individu. Et il continue en disant « وَلَسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهَا بِمِثْلِ قِلَّةِ الْأَدَبِ. » Et on n'a jamais été dépourvu des biens de ce bas monde et de l'au-delà avec quelque chose qui est pire que le manque de adab pour un musulman. Il faut comprendre qu'il parle d'un musulman. Al-Bushanji, rahimahullah, min ulama al-salaf, a dit « Man arada al-ilma wal-fiqha bighayri adabin, faqad iqtahama an yakziba ala Allah wa rasulih. » Celui qui cherche ou qui veut demander la science et la jurisprudence sans adab, c'est comme s'il cherchait à rentrer dans une voie où il va être amené à mentir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son message. Regardez l'importance de l'adab avant de commencer la demande de science. Et quand on voit toutes ces divisions entre ceux qui se disent suivre la même voie, on constate qu'une des plus grandes causes, c'est le manque de adab chez ceux qui n'ont pas reçu d'éducation salafi de la part de leurs chouyours et des hommes de science. Car il n'y a jamais eu de problème dans la communauté par la cause d'un homme de science qui restait auprès des savants pendant de longues années, comme il dit Shatibi. En général, c'est des gens qui vont fréquenter les hommes de science pendant quelques années, où ils vont apprendre un petit peu, et après ça devient des références et des têtes suivies. Et c'est ces gens-là qui vont faire des dégâts et des catastrophes dans la Umma et dans la da'wa d'une manière générale. C'est pour ça, il est rapporté de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak qu'il disait « Nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilm. Nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilm. » On a plus besoin de peu de adab que d'avoir beaucoup de science sans adab. Car avec l'adab, comme il a été rapporté de l'imam Shafi'i, avec l'adab, tu auras la bonne compréhension de la science. Avec l'adab, tu auras la bonne compréhension de la science. Et tous ces sens-là, que je dis d'une manière globale, ils seront détaillés par l'imam Sa'di dans cette risala concise. Car quant à l'adab, tu sais comment poser une question. Et tu sais pourquoi tu poses la question. Et tu sais à qui tu la poses. Et quand est-ce que tu la poses. Tout ça, c'est des choses qui vont faire que Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera la bonne compréhension. C'est pour ça qu'ils ont dit « Bil adabi tafhamul ilma ». Avec l'adab, tu comprendras la science. Donc on a besoin de peu de... Notre besoin de peu de adab est plus grand que notre besoin de beaucoup de science. Allahu Akbar. Cette parole a été rapportée également par Ibn al-Qayyim dans Madarij Salikin de l'imam Ibn al-Mubarak et de d'autres savants dans leurs ouvrages. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a été interrogé au sujet de l'adab le plus bénéfique et le plus profitable. Il a dit سئل الحسن البصري عن أنفع الأدب. Quel est l'adab le plus profitable pour l'étudiant en sciences? Il a dit التفقه في الدين. De demander la compréhension de la religion. والزهد في الدنيا. Et l'abandon des biens éphémères et le délaissement des biens éphémères de ce bas monde, l'ascétisme. والمعرفة بما لله عليك. Et que tu saches ce qui t'incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tes devoirs vis-à-vis de ton créateur. C'est ça, l'adab le plus bénéfique et le plus profitable. Que tu apprennes ta religion et que tu mettes en pratique cette science. La nazod, c'est la mise en pratique de la science. L'homme de science qui est dans la course continue derrière les biens éphémères de ce bas monde, c'est qu'il ne met pas en pratique sa science. Les gens qui sont le plus dans le délaissement des biens éphémères de ce bas monde, c'est al-ulama qui mettent en pratique leur science. Dans cette science de l'adab et de l'akhlaq, qui est une science très importante chez les musulmans, beaucoup d'ouvrages ont été écrits à ce sujet. Dont un des premiers, c'est Kitab al-Ilmi, l'imam al-Hafidh, Ibn Abi Khaytama, Cheikh al-Bukhari wa Cheikh al-Muslim, rahimahum Allah. C'est un des premiers qui a écrit un livre à ce sujet. Kitab al-Ilm, sammahu Kitab al-Ilm. Huwa ibara an ahadith al-musnada. وهو عبارة عن أحاديث مسندة. C'est une compilation de hadith rapportée avec des chaînes de transmission sur ce sujet. Des paroles du prophète عليه الصلاة والسلام, de Sahaba et des savants qui l'ont précédé. Également parmi les livres qui ont été écrits par rapport à ce sujet, plusieurs ouvrages de l'imam Al-Ajurri, notamment أخلاق العلماء, qui a été expliqué par notre cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah. Parmi les livres les plus importants dans cette science et les plus bénéfiques et les plus complets, c'est celui de l'imam de l'Maghrib, al-imam ibn Abd al-Barr, décédé en l'an 463 de l'Hégire. Il a appelé son livre « Jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi ». Il est édité en deux volumes d'Ar ibn al-Jawzi. « Tahqiq al-Zuhayri »« Kitab un azim » من أعظم ما ألف في الباب. Parmi les livres les plus complets, les plus importants et les plus bénéfiques qui ont été écrits à ce sujet par un très grand imam salafi. Et tous ceux que j'ai mentionnés, c'est des imams salafis. Yani, je pense à ce point, car il y en a qui font douter les salafis aujourd'hui, que la plupart des savants de la Ummah, ce n'est pas des salafis. Les égarements ont commencé beaucoup plus tard. Là, ici, on revient aux trois premières générations, au IVe siècle. On trouve que la majorité des savants étaient des savants salafis. Tous les savants, les grands savants de la langue arabe, sans exception, c'est des savants salafis. Al-Khalil, son élève Sibawayh, Al-Asma'i, Al-Mubarrid, yani, il n'y a pas d'exception chez les savants des premières générations qui sont les plus grands imams de la langue arabe. Tous étaient des salafiyins, ils avaient aqidat salaf, Ibn al-A'rabi, et ainsi de suite. La liste est extrêmement longue. Parmi les livres très importants, qu'on peut placer en deuxième place après celui de l'imam Ibn Abd al-Barr, c'est notre imam salafi, Al-Khatib al-Baghdadi. Il a fait un livre magnifique, très important dans le sujet, qui s'appelle Al-Jami'u li-akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. Et Al-Khatib al-Baghdadi, c'est un contemporain de l'imam Ibn Abd al-Barr. Ils sont décédés dans la même année, 463 de l'Hégire. Mais Ibn Abd al-Barr, c'est l'imam du Maghreb, et Al-Khatib al-Baghdadi, c'est l'imam de l'Mashriq. Parmi les livres très importants, le livre d'Ibn Jama'a, Al-Shafi'i, un livre très important. Ibn Jama'a avait des erreurs dans l'aqidah. Lakin son livre fait le consensus des hommes de science par rapport à son importance et son grand profit pour l'étudiant en science. Il l'a appelé Tadhkiratu Sami'i wal Mutakallim fi Adab al Alim wal Muta'allim. Et parmi les ouvrages de l'imam Ibn al-Qayyim, il parle du mérite de la science dans la plupart de ses ouvrages. Lakin parmi les ouvrages de l'imam Ibn al-Qayyim dans lesquels il a parlé énormément de ce sujet, c'est son livre Miftah Dar al-Sa'ada. Également l'Adab al-Shar'iyya, l'Ibn Muflih, al-Hanbali, et un livre très important aussi de Shawkani, Adab al-Talabi wa Muntaha al-Arab. Et les contemporains ont beaucoup parlé de ce sujet, ont expliqué ces livres. Cheikh Nuthaymin a expliqué beaucoup de livres par rapport à l'Adab. طيب, le livre que nous allons étudier, cet épître, son importance, c'est que ça revient d'abord à le sujet qui est traité dans ce livre. Également, le grand statut, le grand niveau dans la science de son auteur, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et dans ce livre, il a parlé de plusieurs sujets très très importants tous. Il a commencé par la sincérité, qui est la base des bases et le fondement de tous les fondements. Ensuite, il a parlé de l'importance de suivre un certain cheminement dans notre apprentissage, un ordre à respecter, dans lequel on commence par le plus important. Et ensuite, il a parlé d'un autre sujet capital dans la demande de science, c'est l'importance de la mémorisation et de la révision des grandes lacunes constatées chez beaucoup d'étudiants à notre époque. La mémorisation de ce que tu étudies et de le réviser. Il n'est pas question d'assister une fois et d'écouter et c'est rangé dans un classeur. Il est très important de toujours réviser nos cours afin de garder ces fawaïd. Il a parlé de l'adab, du demandeur de science, des droits de l'homme de science et de d'autres sujets qui sont tous très importants. Taïb, avant de commencer notre lecture, bi'idhnillahi ta'ala, je vais vous lire quelques paroles de salaf concernant le mérite et l'importance de la demande de science. Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, qu'Allah l'agré, a dit « Alaykum bil ilmi, qabla an yurfa, demandez la science avant qu'elle ne soit levée. Wa raf'uhu halakul ulama. » Et quand est-ce que la science sera levée? Avec la disparition des hommes de science, avec la mort des savants, comme on constate à Ikhwa aujourd'hui. Regardez combien de grands savants sont décédés ces dernières années. Dernièrement, Cheikh Rabi'a, Hafidhahullah, Cheikh Ubaid, Ben Hadi al-Madkhali, Cheikh Ubaid, Ben Sulaiman al-Jabiri, Cheikh Rabi'a, Ben Hadi al-Madkhali, et ainsi de suite. Donc, la mort des savants, c'est ainsi que la science est levée, comme il a dit Ibn Mas'ud. Ensuite, il a dit, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَوَدَّنَّ رِجَالٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ شُهَدَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُمُ اللَّهُ عُلَمَا. Il a dit par Allah, il jure par Allah, pour que tu n'aies pas du tout le moindre doute par rapport à ce qu'il va dire. Il a dit par Allah, des hommes qui sont tombés martyrs dans le sentier d'Allah, en combattant avec les armes, ils aimeront revenir dans ce bas monde comme des hommes de science. Regardez, des gens à qui Allah a accordé le degré du martyr, ils sont acceptés auprès d'Allah comme des martyrs. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils souhaiteront? Revenir dans ce bas monde, mais comme des hommes de science. Pourquoi ils souhaiteront cela? Il a dit, « Lima yarawna min karamatihim » tellement ils vont voir l'honneur et la noblesse accordée aux hommes de science dans le paradis. « Wa inna ahadan lam yulad alima » et afin que tu ne désespères pas d'atteindre ce degré, qu'est-ce qu'il te dit? Abdullah ibn Mas'ud, c'est un des plus grands fuqaha de cette communauté. Radiyallahu anhu wa arda. Et le Nabi alayhi salam a recommandé à sa communauté de prendre ses enseignements. Il a dit, prenez comme guide Abu Bakr et Omar, et prenez les enseignements de Abdullah ibn Mas'ud, ibn Ummi Abd, pour leur importance. C'est le Nabi alayhi salam qui nous a dit ça dans un hadith authentique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, wa inna ahadan lam yulad alima, afin que tu ne désespères pas de la demande de science et que tu te dises, mais moi je ne suis pas fait pour la science. Moi, alhamdoulilah, il suffit que je sois est-ce qu'il y a un problème ou là? Donc il a dit wa inna ahadan lam yulad alima. Il a dit, personne n'est né homme de science. Personne n'est né savant. On n'est pas savant. Mais certes, la science, c'est avec l'apprentissage. Ce qui compte, c'est que tu te mettes sur cette voie. Et que tu travailles sérieusement. Et que tu t'appliques. Et c'est Allah qui permet d'arriver à des degrés dans la science élevée. Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, il est rapporté de lui, il a dit مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ مَثَلُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ. Il a dit, l'exemple des hommes de science sur terre, c'est comme l'exemple des étoiles dans le ciel. Quand ils apparaissent, quand ils éclairent, les gens connaissent leur voie et sont guidés. Et quand ils disparaissent, les gens sont dans les doutes et dans les troubles. الإمام ابن القيم رحمه الله دي لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين. Il dit s'il n'y avait dans la demande de science et dans la science que la proximité du Seigneur des mondes, d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلْتِحَاقُ بِعَالَمِ الْمَلَائِكَةِ et de rejoindre le monde des anges, وَصُحْبَةُ الْمَلَائِ الْأَعْلَى et la compagnie de l'Mala al-A'la, ceux qui sont dans le ciel. لَكَفَى بِهِ فَضْلًا وَشَرَفًا ça aurait été suffisant comme mérite et comme vertu. فَكَيْفَ وَعِزُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَنُوطٌ بِهِ وَمَشْرُوطٌ بِحُصُولِهِ alors que dire que l'élévation et la fierté et l'honneur et le statut dans ce bas monde et dans l'au-delà sont conditionnés par son obtention, par l'obtention et l'acquisition de la science. Allahu Akbar. Tout ça, ya ikhwa, c'est pour qu'on réalise l'importance de la science. Et personne d'entre nous ne naît alim. On devient alim en fournissant les efforts et Allah facilite au serviteur selon sa sincérité et selon sa véracité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Et donc nous allons commencer par la lecture de cette épître de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Les règles de bienséance à l'usage des enseignants et des apprenants. Il a dit يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. Donc Cheikh Rahimahullah dit, il incombe aux gens de science, qu'ils soient enseignants ou étudiants, de placer comme fondement de toutes leurs affaires sur lequel ils bâtissent le moindre de leurs mouvements ou de leur repos. La sincérité absolue. Al-ikhlas, al-kamil, la sincérité absolue envers Allah. Et la recherche de son rapprochement à travers cet acte d'adoration. Cet acte d'adoration qui est la demande de science. Celui qui réalise que la demande de science est un acte d'adoration, il ne dira jamais « je vais arrêter parce que ma mémorisation est faible. Je vais arrêter la demande de science parce que ça fait beaucoup d'années alors que je n'arrive pas à avancer. Ma compréhension n'est pas comme il se doit. » Il ne va jamais dire ça. Il va continuer, car la demande de science en soi-même est un acte d'adoration, comme Cheikh a dit. Ensuite, il a dit, cet acte d'adoration qui compte parmi les adorations les plus éminentes, les plus parfaites, les plus profitables et les plus englobantes. Il continue en disant, il doit veiller scrupuleusement à préserver ce noble principe, qui est la sincérité, dans les moindres détails, comme dans les grandes affaires. Donc, Dans ce point, l'auteur, rahimahullah, nous montre l'importance de la sincérité dans la demande de science. Comme il l'a dit, c'est le fondement sur lequel on doit bâtir tout ce que nous faisons dans cette démarche. Tout ce que nous faisons dans cette démarche de demande de science doit être bâti sur ce fondement qui est le plus important, la sincérité. Et la sincérité, comme vous savez, mes frères, c'est une des deux conditions d'acceptation de tout acte d'adoration. Et la demande de science, c'est un acte d'adoration. Donc, il est exigé d'avoir les deux conditions. La première de ces conditions, c'est la sincérité. C'est la toute première, sans laquelle Allah n'accepte rien du serviteur. Allah dit, en s'adressant à son prophète, alayhi salam, et par la suite à toute sa communauté, « فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ » Adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Et dans le hadith Umar ibn al-Khattab, le Nabi alayhi salam a dit « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » Les actes ne valent que par leurs intentions. « وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى » Et chaque personne sera récompensée proportionnellement à sa sincérité. Dans la sincérité, il y a une base nécessaire pour valider l'acte d'adoration. Mais après, les gens diffèrent dans leur degré de sincérité. Plus notre connaissance d'Allah est grande, plus notre sincérité sera forte. C'est pour ça qu'il y a un minimum qui valide l'acte d'adoration. Et après, les degrés des gens diffèrent dans la force de leur sincérité. Al-Nabi alayhi sallam a dit également « Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisa wabtughiya bihi wajhuh » Allah n'accepte des œuvres que ce qui a été fait sincèrement pour lui et avec lequel on a visé uniquement sa face, sa satisfaction, son agrément. Et la deuxième condition de l'acceptation, c'est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et de le prendre comme unique modèle dans toutes nos adorations. Si on veut résumer les deux conditions, nous devons adorer Allah seul et nous désavouons de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et l'adorer uniquement comme selon ce qu'il a légiféré, selon l'enseignement de son messager, alayhi salatu wassalam. Allah dit, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا » Vous avez en le messager d'Allah un bel exemple à suivre dans toutes vos adorations. Il a dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي » Par rapport à ceux qui prétendaient aimer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur a dit « Dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. » Donc le suivi du prophète alayhi sallam est une preuve de ta sincérité et de ta véracité dans ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les salaf, comme le Hassan al-Basri, ils appelaient ce verset « Ayatul Mihna » ou « Ayatul Imtihan » le verset du test et de l'épreuve de ta véracité dans ce que tu prétends. Tu prétends aimer Allah et tu ne suis pas le prophète, alayhi sallam, t'es un menteur. Et comment suivre le Nabi alayhi sallam ya ikhwa si on n'apprend pas sa sunna? C'est pour ça, l'ilm, c'est la clé de tout bien, comme on a vu tout à l'heure dans la citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Tu ne peux suivre le Nabi al-Sallam qu'avec l'ilm. Tu ne peux arriver à la sincérité qu'avec l'ilm. L'ilm al-sahih. Al-ma'khoud min al-kitab wa al-sunna wa ala fahmi salafi al-umma. Et pas n'importe quelle science. C'est pour ça que le Nabi al-Sallam ne demandait pas à Allah la science comme ça, d'une manière absolue. Il demandait la science profitable, l'ilm al-nafi', qui est la science prise du livre d'Allah et de la tradition authentique de son noble prophète, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et le Nabi, ou là avant Allah, a mis en garde contre le non-suivi du prophète, et la non-conformité à ses ordres. Il a dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qu'ils soient en garde. Ceux qui divergent avec ses ordres, yani les ordres du prophète A.S.A.S.A.L.A.M., qu'ils soient touchés par une tentation ou un châtiment douloureux. La tentation, comme a dit l'imam Ahmad et d'autres parmi les salafs, c'est shirk. Peut-être qu'en se détournant volontairement des ordres du prophète alayhi salatu wassalam, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera dévier cette personne jusqu'à tomber dans le shirk wal iyadu billah. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith Anas radiallahu anhu, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma tradition, il ne fait pas partie des miens. Il ne fait pas partie des miens. Et ces deux points, les deux fondements les plus importants, c'est la sincérité pour Allah, envers Allah subhanahu wa ta'ala, et le suivi du messager alayhi salatu wassalam dans toutes nos adorations avec lesquelles on se rapproche d'Allah et on cherche sa satisfaction et son agrément. Et il a dit que, donc je reviens à la parole de Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, il a dit que cet acte d'adoration, qui est la demande de science, compte parmi les adorations les plus éminentes. Et les plus profitables et les plus englobantes. Effectivement. Comme le Nabi a dit, Fadlul ilmi. Donc le mérite de la demande de science est supérieur au mérite de l'adoration. Car la demande de science, son profit, c'est pour le demandeur lui-même et également pour autrui. Et l'adoration, son mérite, c'est pour l'individu lui-même. Et avec la science, on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il aime être adoré. Taïb, parmi les choses qui nous aident à arriver à la sincérité, ad-du'a ya ikhwa. La sincérité est une affaire tellement compliquée, tellement difficile, que la plus grande cause pour l'atteindre, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a, et d'insister dans le du'a. Il n'est pas question d'invoquer Allah une seule fois, mais d'insister toute notre vie pour qu'Allah nous accorde la sincérité. Comme il a été rapporté de certains salafs, ils ont dit, ما عالجت شيئا هو اشد علي من نيتي. Il a dit, je n'ai jamais fait des efforts sur une chose comme je l'ai fait avec mon intention et ma sincérité, car elle change. Et nafs, et la sincérité, c'est la chose la plus détestée par nafs. car elle n'a rien à tirer, elle n'a aucun profit à tirer de la sincérité. La sincérité, tout est pour Allah. Il n'y a rien pour ton nefs. Il n'y a pas d'estime des gens. Il n'y a pas leurs éloges. Il n'y a pas yani, leur admiration, leurs compliments. C'est uniquement pour Allah. Donc, le dua. Et également, d'approfondir notre étude de l'aqidah et de tawhid qui permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître sa grandeur et sa majesté, sa vigilance et sa bienveillance subhanahu wa ta'ala. Il voit tout ce que nous faisons, tout ce que nous montrons, tout ce que nous cachons, partout qu'on soit. Sa science englobe toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et de persévérer dans les efforts, dans cette voie, sans cesse. Faut pas être découragé quand tu constates que ta sincérité est faible ou que tu as agi par ostentation. Faut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et persévérer dans les efforts jusqu'à arriver à la sincérité. Et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce degré de faire tout ce que nous faisons pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté du grand imam Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, c'est l'équivalent de l'imam Malik, mais il était à Mecca. Et l'imam Malik était à Médine. C'est des contemporains qui se connaissaient et qui avaient des échanges entre eux. Et ils avaient à peu près le même statut. Sufyan ibn Uyayna était à Mecca et l'imam Malik était à Médine. Sufyan ibn Uyayna a dit, il y a deux choses sur lesquelles je fais des efforts depuis 30 ans. Il y a des choses sur lesquelles je fais des efforts depuis 30 ans. Allahu Akbar. Un grand imam, il dit depuis 30 ans. Fait des efforts sur quoi? Sur la sincérité dans tout ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est de ne rien espérer des gens. C'est de ne rien espérer des gens. Également, de ne pas chercher les éloges des gens et de s'éloigner des personnes qui ne font que complimenter et de préférer la fréquentation de ceux qui te disent tes défauts et de s'éloigner de l'maddahin, ceux qui ne savent que faire les éloges, car ce n'est pas ces gens-là qui vont t'aider à te réformer jusqu'à arriver au degré où ceux qui te font des éloges deviennent comme ceux qui te font des critiques. Tu ne vas pas détester une personne parce qu'elle t'a critiqué. Et tu ne vas pas aimer une personne parce qu'elle a fait tes éloges. C'est notre cas aujourd'hui. Mais il est demandé d'arriver à ce qu'ils soient traités sur un même pied d'égalité. Et même de préférer celui qui te montre tes erreurs, surtout quand c'est quelqu'un qui aime ton bien et qui te conseille avec douceur et qui sait choisir les moments pour le faire. Lakin, il faut la vérité, il faut l'accepter de toute personne. La vérité, on la demande qu'auprès des gens de la vérité. Mais quand elle nous parvient, on l'accepte, quelle que soit la personne qui a parlé avec. Et aussi, parmi les causes qui aident dans cette voie, c'est de lire les biographies des hommes de science. Parmi les grands savants de Salaf, mais aussi les grands savants de notre époque. Car quand on lit uniquement les salafs, On peut se dire que ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui c'est plus possible. Lakin lit aussi les biographies de nos grands savants contemporains aujourd'hui, comme l'imam Ibn Baz, l'imam Al-Albani, Ibn Uthaymin, l'imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, l'imam Ubayd, et ainsi de suite parmi nos grands savants contemporains, et aussi ceux qui sont encore vivants, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah, et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Et la sincérité à Ikhwa, de la même manière que c'est une condition d'acceptation des œuvres, la récompense est proportionnelle à la force de la sincérité. Et c'est une cause de la bonne compréhension de la religion. Donc je vous cite une anecdote qui s'est passée avec un très grand savant qui s'appelle Abdurrahman ibn Mahdi. C'est celui qui a demandé à l'imam Malik d'écrire le Muwatta. L'Afwan. C'est celui qui a demandé à l'imam Shafi'i d'écrire le Risala. Il faisait partie des élèves de l'imam Malik également. Mais c'est lui qui a demandé à l'imam Shafi'i d'écrire le Risala. Donc ce grand imam, ce grand savant, il a dit de lui qu'il faisait un rappel le vendredi dans la grande mosquée. Et les gens assistaient à son cours en grand nombre. Il disait que quand ils étaient nombreux, ils se réjouissaient de cela. Et quand ils étaient peu nombreux, ça l'attristait. Il a interrogé un de ses chouyours, un des plus grands savants de Salaf, Bishr ibn Mansour, lui a dit « Qu'est-ce que tu penses de cela ? Je me réjouis quand je vois beaucoup de gens qui assistent à mon cours. Et quand ils sont peu nombreux, ça m'attriste. » Il lui a dit « C'est une assise de mal. N'y reviens plus jamais. » Il a dit « Et je ne suis plus jamais revenu à cette assise. » Yani, les leçons à tirer de ce récit sont très nombreuses. Yakin, on va se limiter à la réalité de ce sentiment qui est très subtil. Et regardez la clairvoyance de son cheikh, Bishr ibn Mansour. Yani, il a vu en cela un problème de sincérité. L'homme sincère, il est le même, que ce soit yani, ceux qui assistent, qu'ils soient nombreux ou peu nombreux. C'est la même chose, il fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne doit pas l'affecter de cette manière. Ça c'est la première chose. Et la deuxième faïda, qui est très très importante et à Ikhwa à notre époque, c'est il a pris en considération ce que son cheikh lui a dit. Qui le fait d'entre nous aujourd'hui ? Illa man rahim Allah. Regardez l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Il donne ses conseils. Il donne ses recommandations. Mais qui les écoute ? Mais qui les met en pratique ? Non, il a pris de l'âge. Il est malade. Nas'alullah salam wa l'afi. Cet homme, quand son cheikh lui a donné cette nasiha, il l'a directement mise en pratique. Et c'était ça parmi les causes de l'baraka qu'Allah a mis dans sa science. C'est pour ça qu'on demande conseil aux hommes de science pour les mettre en pratique. Pas pour faire le tri, choisir ce qui nous correspond et ce qui nous convient. Si tu ne veux pas suivre l'avis de l'alim, si tu ne veux pas suivre son enseignement, si tu ne veux pas prendre en compte ses conseils, alors ne lui pose pas la question au minimum. Donc il a dit, je ne suis plus jamais revenu à cette assise. Allahu Akbar. Donc ya Ikhwa, on va s'arrêter aujourd'hui sur ce premier passage de cette risala, et on continuera la semaine prochaine. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.